Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Poil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast et aujourd'hui je reçois le chef Thomas Graham.
Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup à apprendre. Et du coup, ça
en management
En management, enfin en tout. Enfin, c'est un tout. Comment incarner le rôle d'être le chef, ça m'a pris un petit peu de temps. Je suis de nature un peu timide aussi, donc il fallait...
Dépasser
ça, être un peu plus imposant et tout. Et ça, j'arrivais moyen au début, je pense que ça, aujourd'hui ça va, je suis un peu plus à l'aise par rapport à ça.
La modestie de Thomas n'a d'égal que son talent. Il a pourtant repris avec brio, il y a 2 ans, les cuisines du Mermoz, habitées avant lui par Manon Fleury. Depuis, il trace sa route de cuisinier enthousiaste, passionné de produits, et délivre avec instinct des plats précis, captivants, avec un grain de fantaisie. Avec Thomas, nous avons parlé des années lycée, de miso et d'huile de pépins de raisin vinifiée. Bonne écoute. Bonjour Thomas.
Bonjour Julie.
Tu as beaucoup d'homonymes Thomas Graham sur Google. J'ai chargé ton nom pour chercher des infos sur toi. Il y a un chimiste écossais, le conseiller spécial du président George W. Bush.
Ah c'est bien, ok, je suis bien caché alors, c'est cool.
Directeur du Conseil national de sécurité pour la Russie à l'époque. Mais bref, rien à voir. Toi, t'es un chef bien dans son époque, anglais élevé en Californie, qui s'est passionné pour la cuisine depuis le lycée, c'est ça?
C'est ça.
J'ai trouvé des bonnes informations entre, tu vois.
Ah, c'est cool. Je savais pas qu'on pouvait trouver tout ça sur Google. C'est intéressant. Depuis le lycée, mes parents se sont séparés à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé un peu à cuisiner pour ma sœur. J'ai une sœur jumelle. Pour un peu m'occuper d'elle et tout ça. Et depuis ça, je me suis intéressé et je suis tombé un peu amoureux de la cuisine. Et voilà quoi.
Donc c'était très simple au début?
C'était très simple. Tu veux dire ça?
La cuisine que tu faisais?
Ouais, j'ai ouvert quelques bouquins à l'époque et je faisais des recettes que je trouvais un peu faciles, un peu cool comme ça.
Et tu regardais sur internet, dans les livres?
Surtout les livres, parfois des recettes. Genre sur YouTube ou un truc comme ça pour apprendre un peu comment mieux faire certaines choses. C'était chouette d'avoir des petites démonstrations et tout ça, genre en live, comment cuire des pâtes ou tout ça, toi.
Et la cuisine pour un lycéen américain, c'était folklorique ou je sais pas.
J'étais un peu le seul que je connaissais qui s'intéressait à ça. En Californie, surtout à l'époque, je trouve que les gens s'intéressaient quand même un petit peu moins à la cuisine, surtout à mon lycée. Et du coup, à la limite, j'en parlais pas trop aux autres au début.
C'était ta passion cachée.
Un petit peu quand même. Genre mes potes, ils voulaient aller faire du sport. Enfin, en Californie, il y a beaucoup de surf, des trucs un peu comme ça. Et bon, la cuisine, c'est des barbecues là-bas, quoi. Enfin, pour tout le monde.
Voilà. Donc tu te cachais pour aller regarder tes livres
Ouais, quand même. Genre, un petit peu. Enfin, c'était cool d'en parler un peu plus généralement avec mes potes, mais moi ça m'intéressait vraiment, genre à un moment après quelques années de un peu lire des bouquins, je voulais vraiment genre faire ça après, et ils comprenaient pas tellement. Enfin, moi tous mes potes ils sont allés faire l'université après, et moi je suis parti moi quand je suis parti j'avais 17 ans, je suis parti pour faire l'école de cuisine en France quoi.
Après le bac alors?
Directement après. Ah ouais. Une semaine après je suis parti.
Ah oui, ça va traîner. Et t'avais vraiment envie d'apprendre, enfin tu te voyais pas apprendre la cuisine ailleurs qu'en France, ou c'était dans enfin quelque chose de...
Bah en fait, genre en dehors de la France, la cuisine française a une réputation lourde, genre que c'est la meilleure cuisine du monde, que vous êtes vraiment les meilleurs et tout, et c'est pour ça que je voulais venir ici.
Ouais, tu t'es dit je vais apprendre la cuisine, je vais apprendre dans le a priori meilleur pays vu de l'étranger pour
ouais exactement. Pour moi je voulais faire une vraie formation, et aussi enfin moi j'avais quand même envie de apprendre une deuxième langue et apprendre notre culture et de un peu m'imprégner de tout ça aussi en même temps. Et c'était hyper enrichissant comme expérience.
Donc tu t'es inscrit au Cordon Bleu à Paris.
Ouais, c'est ça, exactement.
Un peu par Ratatouille, mais c'est... Vas-y, c'était pas l'école, mais ça fait très, romancé.
Ouais, un petit peu, ouais. Et c'est vrai que l'école de Cordon Bleu, c'est très connu à l'étranger. Alors que maintenant, avec le recul et genre les expériences, je me rends compte qu'en fait, c'est pas très connu en France. Genre, il y a d'autres écoles qui sont quand même beaucoup plus importantes, genre Ferrandi et tout ça. C'est une belle école. Enfin, j'ai bien aimé ma formation là-bas quand même.
Et il y a des chefs que t'aimais bien, que t'admirais quand tu as commencé à t'intéresser à la cuisine, quand t'es arrivé tout jeune étudiant.
Quand j'ai commencé, c'était les classiques, quoi. C'était Robuchon, Alain Chapelle, ce genre-là. Enfin, Auguste Escoffier quand même un petit peu aussi. Enfin, j'avais les guides culinaires. C'était un de mes premiers bouquins de cuisine que on m'a offert une fois que j'ai commencé à apprendre le français. C'était galère. Je comprenais rien au début.
T'avais quand même une envie d'apprendre les bases. C'était pas la cuisine de Jamie Oliver, c'était plutôt la cuisine des pères de la gastronomie française.
Ouais, en fait, au début, moi, je voulais vraiment apprendre de commencer au début, quoi. C'est ce qui m'a intéressé. Évidemment, enfin, avec un peu plus de temps, la cuisine un peu plus moderne, ça m'a intéressé, mais un peu plus tard. Genre là, quand j'ai commencé, je voulais commencer un peu avec eux, quoi. Ouais, avec eux, quoi.
Quand t'as commencé le Cordon Bleu, tes premières expériences, ça t'a plu? Enfin, ça t'a pas rebuté? Parce que
passer genre à l'école.
À l'école et les premiers stages que tu as fait, de passer de ce qu'on imagine à la réalité, c'est comme dur. Enfin, c'est un métier qui est assez difficile, on sait. Est-ce que ça a été difficile pour toi?
Je pense, moi j'avais pas trop de d'attente.
Ouais.
Et en fait, comme je venais de notre pays, je me suis dit que ça allait être compliqué. Juste parce que quand j'ai commencé la cuisine, je comprenais pas très bien la langue aussi. Et mes premières expériences, c'était très dur, mais je pense que limite c'était plus facile, comme je comprenais pas trop ce qui se passait. Parfois, si je me suis fait engueuler par un chef ou je sais pas, un collègue ou un truc comme ça, je comprenais pas vraiment ce qu'il me disait, et du coup je pense que c'était peut-être un peu moins blessant. Ça me protégeait peut-être un petit peu comme ça, mais sinon globalement mes premières expériences ça s'est quand même bien passé, quoi.
Tes premiers stages c'était où?
Mon premier stage c'était au restaurant du Philippe Escoffier. Maintenant je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Je sais que c'est encore ouvert, mais c'est le restaurant Philippe Escoffier ou un truc comme ça. C'est dans le 7e, et c'est un petit bistrot genre 30 places assises comme ça. Lui, c'est l'ancien chef de l'ambassade américaine. C'était chouette pour une première expérience, c'était cool. En plus, lui, il parlait quand même un peu anglais. Donc, si je comprenais vraiment pas, il pouvait quand même un peu m'expliquer.
Tu peux comprendre les insultes.
Ouais, il m'a bien appris ça. Ouais, grave. Mais pour moi, mes premières vraies expériences... qui m'intéressait beaucoup par rapport à la cuisine, c'était quand j'ai rencontré Amélie plus tard.
Comment t'es arrivé chez Aikai?
Son sous-chef à l'époque s'appelle Thomas Waro, moi j'avais bossé avec lui chez Philippe Escoffier justement. Et du coup, moi, je suis parti faire bosser dans un autre restaurant. Et lui, je ne sais plus comment ils se sont rencontrés avec Emily, mais c'était son sous-chef. Et il m'a appelé un jour, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas venir? Et je suis allé, et après, c'était parti.
Après, tu as resté tout le temps avec elle jusqu'à...
Après, je suis resté longtemps avec elle.
Jusqu'à déménager avec elle à Vaillant.
À Vaillant,
dans l'Hérault.
Dans l'Hérault. Dans le Languedoc, ouais. Dans un village de 120 habitants. je suis resté avec elle longtemps.
T'as fait la dernière partie d'Aikai ou tout, enfin,
Aikai, j'ai pas fait l'ouverture, mais je suis arrivé genre 6 mois après.
Ouais.
Et après, je suis resté juste à la fermeture.
Ouais, jusqu'à la fermeture, ouais. Ensuite déménagement, plus toute la préparation du projet, l'ouverture dans l'Hérault, les travaux. Le lancement du potager aussi, et jusqu'à l'arrivée de l'étoile.
Exactement.
Et ensuite, ça a été un peu... Enfin, tu as eu envie aussi de voler de tes propres ailes et de...
Ouais, c'est ça.
Revenir à Paris.
En fait, l'étoile était vraiment un peu notre but depuis que je la connais presque.
Ah non, genre, même depuis Aikai.
Depuis Aikai. Après, Amélie, elle savait un peu qu'elle n'allait pas l'avoir au Aikai. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs avec les guides Michelin où il faut vraiment entrer dans les cases par rapport à la salle de service.
Aikai, c'est vrai que ça rentrait moins dans le...
Ouais, c'était un peu un trou dans un mur, quoi. Genre, comme on dit en anglais. Dès que elle avait tout le cadre qui va avec et tout ça, je pense que, moi en tout cas, ça ne m'a pas du tout étonné qu'elle a gagné l'étoile tout de suite. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps avec elle. Je trouvais que la cuisine qu'elle faisait, qu'on faisait ensemble, c'était trop bien. Je kiffais vraiment ce qu'elle faisait. Je trouve que l'étoile, elle mérite largement, quoi.
Mais c'est vrai que toi, t'as eu envie aussi de te, enfin, de prendre ton envol et de revenir à Paris.
Ouais. Une fois qu'on a gagné l'étoile, j'ai vu ça un peu comme genre mission accomplie. Genre là, c'est bon. Enfin, je vais faire autre chose, toi. Et du coup, je suis parti rapidement après. Je suis remonté et. Il fallait que je trouve un travail quand même rapidement pour avoir un appartement à Paris, tout ça. Et du coup, je suis allé travailler avec Cybèle Idelot.
À Boulogne ou
à Boulogne.
Après, à la table de Cybèle.
Après, à la table de Cybèle, exactement. Et elle m'a fait visiter son nouveau projet aussi à Gambé. Alors, c'est là trop stylé aussi. Mais je suis allé bosser quelques mois avec elle. Et pendant que j'ai bossé là-bas, le patron d'ici m'a contacté sur les réseaux sociaux, je ne sais plus lequel, pour me proposer de venir ici, quoi.
Venir ici. Et comment il avait entendu parler de toi?
Je sais pas.
Tu dit je tu sais pas, je t'ai jamais dit.
Je sais toujours pas.
Comment il t'a trouvé?
Ah, je sais pas. En plus, j'étais quand même très très discret à l'époque. Non, je sais pas. Bah, après, il est quand même un petit peu connecté. Il doit avoir des sources, quoi. Je sais pas.
Il a des antennes.
Ouais, je pense. Mais il m'a contacté. Je sais qu'il avait quand même contacté pas mal d'autres mondes. Enfin, évidemment, il y avait quand même un petit peu de concurrence, j'imagine, pour ce poste. mais ça s'est passé tout de suite, trop bien.
Ouais. T'es venu, tu connaissais déjà le lieu?
Je connaissais le nom. J'ai déjà entendu parler du Mermoz. Je voyais qui c'était Manon Fleury. Et même, je crois qu'on s'est déjà croisé une ou deux fois, mais genre de loin. J'ai jamais parlé avec elle, toi. Du coup, je connaissais déjà un peu, mais pas plus que ça. Je suis jamais venu genre manger ici ou dans le 8e ou quoi. mais du coup, je suis venu faire un essai, mais juste avec genre lui et les associés. Mm-hmm. Et après, c'était bon.
C'était
quoi.
Bon. Juste avant le Covid.
Juste avant.
Vraiment quelques semaines avant le Covid.
C'était juste avant le Covid. C'était difficile de commencer et on avait cuisiné avec l'équipe pendant quoi, genre deux trois mois et après fermeture.
Tout fermé pendant quasiment un an.
Donc j'étais assez frustré quand même parce qu'en plus j'ai commencé, évidemment c'était un petit peu difficile au début parce que moi c'était mon premier poste de chef et j'ai hérité l'équipe de Manon, c'est-à-dire qu'elle est partie mais il y avait tout le monde qui bossait avec elle qui était encore sur place.
T'as les comparaisons.
Bien sûr. Mais après, c'était des crèmes. Franchement, tout le monde était hyper sympa. J'étais très bien accueilli. Maintenant, on avait deux sous-chefs, Lorraine Bargeot et Thibaut, qui étaient vraiment et qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé au début cette étape. Donc, ça, c'est cool.
Mais frustration de commencer et puis d'arrêter au bout de quelques semaines à cause du Covid, la fermeture et de pas continuer sur la lancée.
Ouais, c'était hyper frustrant. Autant que ça commençait juste à genre bien se passer avec l'organisation, je prenais un peu mes marques par rapport à comment vraiment être le chef, parce que j'étais sous-chef avec Amélie pendant longtemps, mais c'est pas pareil, c'est pas le même rôle, c'est pas la même dynamique. Et quand j'ai commencé, j'avais beaucoup à apprendre. Et du coup,
en tout,
comment incarner le rôle d'être le chef, ça m'a pris un petit peu de temps. Je suis de nature un peu timide aussi, donc il fallait
dépasser
ça, être un peu plus imposant et tout. J'arrivais moyen au début, je pense que ça, aujourd'hui ça va, je suis un peu plus à l'aise par rapport à ça.
Mais t'étais tout jeune aussi.
Ouais, quand même. Enfin,
t'as commencé à 26
ans. Ouais. Mais ça s'est quand même bien passé, c'était cool. Mais après, une fois qu'on a fermé, j'étais frustré parce que, du coup, tout a arrêté. Et pendant la fermeture, il y a des gens de l'équipe qui sont partis. Et du coup, on a essayé de faire des recrutements pendant qu'on était fermé. Et
hyper pratique.
Et ça, c'était quand même un peu difficile. Mais aujourd'hui, on a une équipe avec genre que des gens qu'on a recrutés depuis. Du coup, c'est un peu vraiment genre mon équipe, et je les adore, et je suis trop content que c'est moi qui a choisi ces gens. Toi, c'est chouette, ça m'en heureux d'être comme ça.
Et de faire ta propre cuisine, ça a été quelque chose de difficile, de trouver ta propre cuisine, ou tu l'avais.
Je pense. Après, moi, c'était un peu un de mes rôles avec Emily. Enfin, j'avais souvent envie de faire beaucoup de choses. Mais au début, c'était un peu comme un galop d'essai. On essayait de faire plein de choses différentes et on voyait un peu ce qui marchait, ce qui marchait un peu moins bien. Après, j'avoue que maintenant, elle avait quand même mis en place un certain style qui était quand même un peu un ligne conducteur que j'avais essayé. On a fait exprès de quand même essayer de pas trop changer la chose non plus.
La structure de la carte, tu veux dire, ou aussi le fil conducteur.
Au début en tout cas je voulais pas trop changer les choses, autant pour la clientèle. Enfin, je voulais pas que genre ils sentent que le chef a radicalement changé un truc comme ça. Mais juste de bosser avec des petits maraîchers, de quand même se concentrer un peu sur le légume et tout ça, l'amour pour les agrumes, ça c'est des choses qui étaient déjà un peu en place avec Manon, et que je suis totalement d'accord, c'est des choses que j'aime bien aussi, mais qui est toujours bien que ça reste quand même un peu comme ça.
Mais c'était assez naturel, t'es pas forcé, c'était choses aussi que toi tu aimais et que tu as pas récupéré,
des choses que j'ai pas voulu changer. Des choses que j'aime bien aussi. Je pense que maintenant je les connais pas bien, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui je m'entendrais bien. elle aime pas mal de trucs que j'aime bien aussi, et voilà quoi. Autant pour la cuisine que globalement, je pense.
Ça a été en même temps un changement dans la douceur, je pense. Et en même temps, je trouve que tu as réussi à trouver ta patte qui est différente de celle de Manon, et te faire vraiment un nom aussi, te faire un nom.
Tu trouves ? Je m'en bats contre ça.
Ah bon ?
Ok.
Non ?
Ah, je sais pas. Franchement, ça je m'en bats contre. Mais j'ai l'impression que surtout maintenant, plus qu'au début, on a un peu plus un style plus marqué, genre des trucs qu'on aime bien faire, des façons de travailler qui sont un peu marqueurs de ici et peut-être de maintenant de moi aussi, et ça c'est chouette, ça me fait plaisir. Je me sens un peu plus genre vraiment légitime en me disant que j'ai une cuisine qui est un peu à moi, et pas des choses que j'ai pris d'Amélie ou que genre que Manon avait fait en a gardé ou quoi. C'est plus des trucs que j'ai bien fait de moi et avec l'équipe évidemment maintenant.
Ça prend du temps ça.
Ça prend du temps. Surtout quand t'es fermé. Après, en même temps, enfin, je dis pas ça pour me plaindre parce que c'était quand même chouette d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Parfois, on a tellement genre la tête dans le guidon qu'on on a pas le temps de ça. Et ça, c'était quand même bien au début. D'avoir quelques mois où on avait beaucoup travaillé et après de fermer et réfléchir un peu, faire des listes et des dessins et des essais et tout ça, ça aussi, ça m'a quand même beaucoup aidé.
Ouais, aujourd'hui, je pense que t'as réussi à trouver aussi ton style, quelque chose entre Escoffier et quelque chose de beaucoup plus contemporain, hérité aussi, je pense, de ton expérience chez Aponem aussi en direct avec de travailler en direct avec un potager, l'expérience aussi au Noma, où t'as beaucoup expérimenté la fermentation.
Moi, j'ai adoré mon expérience au Noma. C'était hyper formateur, j'ai appris plein de trucs. Je trouve qu'on fait pas non plus une cuisine spécialement fermentée ici. Genre, moi, j'adore, il y a des trucs que
un peu en condiment plutôt, tu utilises.
Ouais, en condiment, enfin, on fait beaucoup de miso qu'on utilise dans plein de trucs ici, parfois surtout comme moi j'ai bossé au Noma, parfois on te met un peu dans une case de genre les gars qui font de la fermentation, tu vois. Et moi je trouve qu'en France, enfin la plupart des produits ils sont beaux comme ça, il faut pas trop les mettre à fermenter. Limite c'est parfois un peu dommage de faire ça avec. Mais il y a des goûts qu'on peut retrouver avec la fermentation que tu peux pas avoir autrement. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Genre dans les sauces, les garums, les miso, ça je trouve ça hyper intéressant. Mais genre des trucs genre lacto-fermenté et tout ça, ça me passionne un peu moins maintenant.
T'aimes la simplicité aussi quand on sent bien le goût des ingrédients, mettre en valeur les produits. Tu disais aussi, c'est vrai qu'en France on a la chance d'avoir des super beaux produits. Là-dessus aussi, tu fais attention à. Enfin, c'était déjà un travail qui avait été mis en place aussi, tout le réseau de petits producteurs, et tu te retrouvais complètement dans cet état d'esprit.
Ouais, mais après, c'était vraiment un peu la même philosophie avec Amélie. Genre, elle était quand même vraiment de la partie de dire que quand les produits sont beaux, nous on fait pas grand chose, genre les cuisiniers et toi. Non, nous on fait un ou deux trucs et c'est tout. On laisse parler les produits qu'on a, quoi. Même moi, ce que j'aimais beaucoup dans sa façon de travailler, c'est que souvent, elle commandait plein de choses, plein de légumes, genre sans aucune idée de ce qu'elle allait en faire. Et dès qu'on commençait à recevoir les produits, les voir visuellement, elle s'inspirait. C'était genre...
instinctif.
Et on faisait des menus genre, vas-y, on peut faire ça avec ça, ou ça avec ça, ou un truc comme ça. Et moi, j'ai bien gardé cet esprit. J'adore ça. Je trouve ça trop cool.
Tu veux pareil, tu travailles beaucoup l'instinctivité?
Tous les matins avant qu'on commence. Normalement, on reçoit la plupart de ce qu'on va travailler dans la journée, les légumes, les viandes, poissons, tout ça. Et on arrive, et on regarde un peu, on fait un peu de rangement, on regarde, et après, on fait le menu. On voit s'il y a des produits qui sont genre, ah oui, genre aujourd'hui, je sais pas, on a reçu genre, ah, des super asperges et des linguates, je sais pas, un truc comme ça. On va faire quelque chose avec ça. Ou peut-être il y a des choses qu'on va garder pour le soir ou demain ou un truc comme ça. Et c'est très instinctif et autant pour moi qu'avec l'équipe. On s'assoit tous et on en parle. Tout le monde peut donner des idées, poser des questions. Genre, moi j'adore ça. Que
c'est vraiment,
c'est pas juste moi, genre ouais. c'est vraiment tous les recettes et tout le même genre les dressages et tout comme ça, tout le monde y participe quand même un petit peu, genre même les apprentis, même les stagiaires, tout le monde.
Et avec les producteurs avec qui vous travaillez, justement, c'est pas forcément toi qui fais ta liste de courses, c'est eux aussi qui t'envoient ce qu'ils ont de beau au moment où...
Très souvent, c'est comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire que selon le producteur, parfois on peut passer des commandes. Si je sais que j'ai besoin de quelque chose de chez eux, je vais leur dire, je veux bien ça, quand même. Mais sinon, je leur dis... Et après, tu me mets ce que tu veux. Genre, tu me mets une ou deux caisses de...
Ouais,
de ce que
une caisse.
Oui, il me faut...
Une caisse de légumes.
Il me faut des légumes. mais vas-y.
Faut être ouvert à la surprise, ouais. Et faut être créatif pour, ouais, fonctionner comme ça.
Ouais, grave. Mais c'est, enfin, j'ai bossé comme ça pendant longtemps avec Amélie et ouais. J'ai pas envie de bosser autrement. Enfin, je trouve ça trop bien. Et même temps, comme ça, les marachés, il y a un vrai échange parce qu'eux, ils t'envoient quelque chose que ils mettent leur cœur dedans. Ouais. Ils disent que ah, ça, c'est top.
Et c'est prêt, c'est top, c'est, ça veut dire que c'est prêt au moment, c'est prêt à être mangé, à être dégusté, et pas ni trop tôt, ni trop tard, ni parce que t'as demandé ça et qu'il fallait sortir ça.
Ouais, exactement. Et comme ça aussi, je trouve que c'est, y a un vrai échange, parce qu'après, eux, s'ils nous envoient quelque chose, et eux, ils croient que genre, c'est, wow, ça c'est genre, c'est les meilleures courges qu'on a eues dans un truc comme ça. Et après, enfin, nous, souvent, on est d'accord, hein. Mais si on n'est pas d'accord, c'est intéressant d'en parler. Genre, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas aimé? Pourquoi c'était compliqué pour nous? Et genre, pourquoi est-ce que c'était top pour eux, le maraîcher? C'est cool d'échanger là-dessus. Et en plus, enfin, j'ai pas eu le temps d'aller visiter tout le monde encore, mais je suis allé plusieurs fois chez Xavier, au Limon de Toulotte. Et j'adore de pouvoir vraiment y aller là-bas. Et genre travailler avec lui ou de lui poser plein de questions ou tout ça, et après revenir ici, je comprends beaucoup mieux genre l'organisation et pourquoi ils font certaines choses comme ça, et c'est trop bien comme expérience en tant que chef.
Et il n'y a pas un effet comme le panier de la map à la fin de l'hiver où ah, oh non, on en a marre d'avoir
après genre les produits, parfois ça bouge un peu moins vite que quand on a envie. Mais après, c'est à nous d'être créatifs avec. Genre, il y a mille façons de cuire une courge, toi. Alors, on peut tout faire avec ça.
La qualité des produits, ça, tu disais, c'est quelque chose que tu as découvert, Amélie, ou c'était aussi important en Californie quand tu étais enfant? Est-ce qu'on a une image de la Californie assez qui prend, enfin, que la cuisine est assez healthy, et est-ce que c'est, comment c'est là-bas?
En fait, moi, quand je suis parti, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment encore explosé, genre la cuisine ou même genre la gastronomie là-bas. Mais la qualité des produits était toujours très intéressant. Même, enfin, moi, je viens de Los Angeles. Il y avait toujours genre des très beaux marchés avec des légumes bio
des
et tout ça.
Producteurs.
Et moi, j'ai grandi. Enfin, une grande partie de mon enfance, j'ai grandi dans un peu dans le quartier mexicain. Et du coup, j'avais des amis mexicains qui montraient aussi des produits qui venaient de Mexique, ou des produits qu'ils achetaient à Los Angeles mais qui venaient de là-bas, genre des piments, des poivrons, des trucs comme ça. Et ça, c'était incroyable. Genre ça me manque beaucoup. Parce qu'on trouve pas trop ça. Enfin, un petit peu peut-être avec Pierre Gayet, qui, enfin, il fait des piments et des tomates et des oignons incroyables. Mais c'est pas exactement la même chose. Enfin, je suis parti à 11 ans, 12 ans, enfin, je sais plus, il y a longtemps maintenant. J'ai l'impression que la gastronomie a un peu explosé depuis. Genre là, il y a le guide Michelin qui a retourné à Los Angeles même. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Genre, il y avait pas
ça va être 2 ans, je crois, qu'ils sont 2 ou 3 ans, non, qu'ils sont sortis peut-être juste avant le Covid.
Franchement, je ne sais plus. Mais je sais que maintenant, il y a un guide. Mais moi, quand je suis parti, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de restaurant étoilé à Los Angeles. Et, du coup, ça crée un peu une scène food un peu moins importante comme ça.
Ouais. Et t'as toujours voulu rester en France quand t'as commencé tes études ici?
Tu
t'es pas dit que tu voulais retourner à ouvrir un resto à Los Angeles?
De base, je devais retourner après mes études. Hein. Ouais. Genre, mes parents, ils étaient outrés.
Tu te sens un peu français, en fait? Tu t'es senti français ou tu...
Non, juste, j'aimais bien. Genre, je me sentais à ma place. J'aimais bien ce que je faisais. J'étais content d'être de mon expérience et je voulais poursuivre l'idée de vraiment apprendre la deuxième langue. Parce qu'après un an comme ça, je commençais à peine de vraiment pouvoir parler ou comprendre. Et je voulais faire ça. Enfin, je voulais aboutir ça et apprendre comment être genre un vrai cuisinier. Parce que c'est pareil, après un an... J'avais rien à faire, enfin, t'as encore quoi. Et après, c'est normal, genre, ça prend du temps d'apprendre la cuisine ou une autre langue ou un truc comme ça. Genre, il faut.
Donc, t'as persévéré, t'es resté, et après, t'as voulu, enfin, t'as pas voulu repartir?
Non, pas encore.
Pas encore? Un jour?
Peut-être un jour. Mais pas bientôt. Voilà. Non, pas. Enfin. Même pas un jour. Pas. J'aime beaucoup ici. Je me sens bien.
Paris ou toute la France?
La France, globalement.
Bon, j'ai une tradition dans mon podcast, c'est le petit questionnaire aller-retour.
Ok.
Ton plat préféré de tous les temps?
L'omelette. Genre une omelette quoi, genre juste pour, j'adore ça. Je sais pas, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais genre j'aime trop.
Ton livre de recettes fétiche?
Difficile parce que j'en ai beaucoup, mais celui que j'aime particulièrement, c'est le livre de Daniel Hume à 11 Madison Park.
Le dernier ingrédient que t'as découvert?
Huile de pépins de raisin vinifié. C'est un produit incroyable. C'est chez Binéar en Alsace qui font ça. Et du coup, c'est de l'huile qu'ils font avec les pépins de raisin qui ont été faits en vin, quoi. Ils récupèrent genre la mare et tout ça. Ils trient pour avoir les pépins. Ils les sèchent. Et après, ils les pressent en huile. C'est un truc de malade. Genre,
c'est un goût de quoi?
C'est un goût... beaucoup plus nuancé, genre du coup, enfin,
parce que l'huile de pépins de raisin, c'est neutre, assez neutre, non?
Mais pas celui-là,
même
à un point où ils font des cépages.
Ah ouais.
Il y a genre huile de pépins de raisin muscadé, huile de pépins de raisin grand cru, genre il y en a plusieurs comme ça.
Ah ouais.
Et en fait, ils sont passés pour moi les présenter, et
gros coup de cœur.
Ils ont vraiment un goût différent chacun. C'est un peu comme des huiles d'olive,
ouais.
Mais je trouve beaucoup plus aromatique, enfin, genre plus dans tous les sens du terme. Après c'est genre, c'est hyper cher, on en utilise quand même très peu parce que on peut pas quoi. Mais c'est le premier produit, enfin la dernière produit que j'ai goûté, j'étais là genre ah, oh ouais, ça c'est ouf, genre ça c'est trop cool.
Goût que tu connaissais pas et que le truc le plus bizarre que t'aies mangé?
De la méduse.
C'est bon.
Ah, c'était pas ouf, je te cache pas. Mais
c'était où?
C'était où? En fait, c'était. Il me semble que c'était au Haikai. Il y avait un apprenti qui nous a ramené ça. Genre, c'était un plat de leur famille. Ils faisaient de la méduse, genre en salade, ou genre avec du citron et tout ça. Mais. C'était pas très bon. Enfin. c'était mangeable. Mais je sais pas, la texture, elle était chelou. Ça me faisait un peu penser genre aux oreilles de cochon, un peu gélatineux, mais genre un peu croquant en même temps. J'ai pas trop aimé, mais ça doit être facilement le truc le plus bizarre que j'ai déjà mangé.
Ton dernier meilleur repas?
L'arpège. Je suis allé manger à l'arpège il y a 3 ou 4 ans. Et c'était incroyable, c'était super bon. Ouais.
Une technique de cuisine découverte récemment?
Bon, ça doit être la technique pour la Lotte Wellington.
Pour
on fait un plat qui s'appelle la Lotte Wellington, ici.
Comme du bœuf ou rien à voir?
En fait, c'est exactement comme le bœuf Wellington, mais avec du poisson. Et c'était assez technique à apprendre à maîtriser la cuisson de ça. Parce que pour que la pâte feuilletée soit cuite et que la lotte soit pas trop cuite, c'était très compliqué. Enfin, j'en ai raté quelques-uns, quoi. Avant que ça soit vraiment bien.
En plus, tu peux pas vraiment mettre une sonde à l'intérieur, sinon tu perds ta pâte et...
Ouais, exactement. Il faut vraiment, genre, le maîtriser. Bon,
Maintenant,
c'est bon. Et on a fait ça pendant un moment. Maintenant, on a un peu raté parce que c'était un de ces plats où on le mettait à la carte et on vendait un peu que ça et... c'est cool, ça je suis content à chaque fois, mais c'est bien de changer quand même de temps en temps.
Le chef ou la chef à suivre?
Sugio, je pense. Sugio Yamaguchi. Je lui connais un petit peu, mais il est déjà venu ici. On a fait un atelier de fermentation, il est passé et tout. Et là, elle a gagné la Coupe du Monde de salaire et omelette. Ça me fait trop rire à chaque fois. Elle a gagné ça. Je trouve que c'est bon, ça a l'air super ce qu'il fait. Après, je suis jamais allé manger dans son restaurant.
C'est fermé.
Ouais, c'est fermé. Ouais, là, mais ça a l'air super ce qu'il fait. Je trouve que ça a l'air en tout cas genre génial.
Ta musique pour cuisiner?
Ah, ça, ça je sais de suite. moi j'aime beaucoup Joyner Lucas, c'est un rappeur américain où on écoute ce que mon sous-chef turc écoute, et ça c'est autre chose, mais il faudrait lui demander, je sais pas. Mais sinon, pas mal de Jordan Lucas, Post Malone, des rappeurs un peu américains et tout, j'aime bien.
Et un compte Instagram que t'aimes suivre?
Sauce Glibiche. Enfin, ça, il me fait trop rire, et tort. Donc, ça, j'adore ce compte. Mm.
Qu'est-ce qui t'émeut dans la cuisine?
En tant que client, moi, j'aime beaucoup, genre, l'attention au détail. Je trouve ça hyper touchant quand. Ah, je sais pas, j'ai pas un exemple, mais quand tu vois que les cuisiniers se sont vraiment donnés pour faire quelque chose de soigné, ça me touche beaucoup. Et en plus, enfin, comme je suis du métier, enfin, je suis un cuisinier, ça se remarque plus quand je vais au resto, c'est cool.
On parlait d'être chef. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Ça a mis du temps. Hein. La première fois que j'ai vraiment senti, c'était on a été critiqué par le Time Out. Mm-hmm. Et c'était un des premiers genre articles qui m'ont vraiment rassuré par rapport à ça. Genre, c'était, bon, ça s'est très bien passé. Et avant ça, je me sentais pas hyper légitime. Genre, ça se passait bien, mais j'étais vraiment pas sûr de moi encore. Et c'était
de ta cuisine ou de ta place,
de ma cuisine, de ma place, de ma façon de gérer, de tout. J'étais pas sûr. Et il y avait ça. Après, on commençait à avoir d'autres de trucs comme ça, et je me suis senti un peu plus soulagé. Genre, après, c'est peut-être un peu horrible de dire que c'était un article comme ça qui m'a soulagé par rapport à ça. Non, mais c'est le cas, quoi.
C'est souvent, c'est aussi, ouais, dans le regard des autres, ouais, qu'on trouve sa place aussi, hein, donc
ouais,
normal. Et tu te sens chef, cuisinier, enfin, comment tu te présentes comme chef?
Bah moi, je me présente plus comme un cuisinier. Genre, si je rencontre quelqu'un que je connais pas, je vais dire, enfin, il me demande qu'est-ce que je fais. Ah, je suis un cuisinier. Enfin, je vais répondre ça, quoi. Moi, j'aime bien ça. Enfin, ça me va d'être cuisinier. Genre, chef, c'est genre, oui, si on cause un peu plus, oui, je suis le chef d'un restaurant, et ça, c'est un rôle en lui-même, mais je me sens plus à ma place de dire que je suis un cuisinier avant.
T'as besoin de cuisiner.
Ouais. J'aimerais pas être, genre chef, un chef qui n'est jamais là pour les services, tu vois,
qui
comme ça.
Touche plus les casseroles et qui cuisine plus, et...
Ouais, moi j'aurais beaucoup de mal avec ça. Ouais. Je suis très attaché à quand même être présent, autant pour, je trouve que c'est beaucoup mieux pour l'équipe, parce que, enfin, nous en plus, on travaille avec beaucoup d'apprentis, des stagiaires et tout ça, et pas, faut que je sois là pour leur former, je suis responsable de leur formation, tu vois. Il faut que je sois quand même en place pour eux, pour les clients, les clients, et surtout maintenant que ça fait quand même un peu de temps que c'est moi le chef. Eux, il y a des clients qui veulent venir me voir, genre, c'est cool. Après, il y a des moments, je peux pas être là tout le temps non plus, mais je fais le maximum de quand même être là, tu vois, comme ça.
Vous prenez toujours un soir de congé par semaine?
Ça dépend des semaines. Genre, par exemple, la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui était malade, du coup j'étais là pour tous les services.
Ouais.
Mais c'est genre, je vais pas me plaindre, je suis le responsable. Ouais. S'il faut être là, je suis là.
Mais ça, vous le gardez, vous essayez de le garder pour l'équipe,
ouais,
d'avoir ce soir un peu bonus dans la semaine.
Même, en fait, ça dépend. Genre, on s'organise pour que, par exemple, cette semaine, on a un stagiaire, Christina. Elle est off tous les soirs. Elle est là toutes les soirées, comme ça. Et genre le sous-chef et chef de partie, eux, ils ont deux soirées aussi par semaine. Et moi, je vais en avoir une. Selon la semaine, je pourrais peut-être en prendre un deuxième si je voulais. Si,
ouais.
Mais ça dépend des semaines. Ouais, comme ça. Mais c'est chouette, comme ça on s'organise pour que tout le monde soit pas trop fatigué.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il y a une meilleure ambiance, tout le monde travaille un peu mieux et ils sont un peu plus créatifs, un peu plus investis, comme ça.
Et le format du soir aussi, de petites assiettes, ambiance bar à vin, ça découle aussi de cette organisation, et c'était, ouais, aussi une volonté, voilà, d'avoir une meilleure organisation, une meilleure vie pour les cuisiniers.
Bah moi, je trouve ça intelligent. Ça, par contre, c'était déjà en place quand je suis arrivé, mais en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Et nous, autant pour les pour la perte, nous, ça nous permet de vraiment utiliser tout ce qu'on n'a pas utilisé le midi et le mettre en valeur et quand même l'utiliser pour le soir. Très cool. Mais aussi, comme le format petit et c'était partagé, on n'a pas besoin d'être autant en cuisine pour envoyer ça par rapport à le midi où c'est en prépa dessert et il faut aller vite et tout ça. Du coup, on peut être, genre ce soir, je vais être deux avec mon sous-chef. Et on va très bien envoyer comme ça, il n'y a pas de problème. Alors que le midi, on est quatre. Ouais. Deux fois plus, quand même. Ouais. Ouais.
Et sinon, je crois qu'on avait. Tu me disais que le soir, tu avais aussi envie de pousser un petit peu plus la cuisine. Enfin, que c'était une envie, en tout cas, qui était là.
Ouais, bah, attends,
quelque chose de plus poussé que des petites assiettes.
Je suis un peu éternellement frustré, mais ouais, j'aimerais bien, et on va le faire, de commencer à faire des menus légumes, genre une fois par mois, un truc comme ça. Juste histoire de nous se pousser un peu, et aussi, genre, j'aimerais bien inviter les autres pour venir faire genre des 4 mains et tout ça. J'aimerais beaucoup partager avec les autres comme
d'autres chefs.
Et je trouve qu'un menu légumes, c'est plus un format pour faire ça. Alors que si j'invitais. Un autre chef pour venir faire des essais à partager. Je trouve que c'est un peu moins pas valorisant, mais ouais, c'est un petit peu moins intéressant comme ça. Mais le légume, c'est vraiment genre les clients ils viennent vraiment pour avoir un peu la cuisine de quelqu'un ou de deux personnes comme ça. Alors que des essais à partager, comme il y a le choix et tout, c'est moins comme ça. Ouais.
Et vous faites toujours le cours de yoga? Mardi à 15h30.
Malheureusement, on a arrêté pendant le Covid et on n'en a pas repris pour l'instant. Mais j'aimerais bien, et c'était vraiment une super initiative, mais ça, on a dû l'arrêter avec le Covid et tout.
Et en parlant de cuisine, de menu dégustation, est-ce que les étoiles, ça te fait rêver encore? Ça te fait rêver, tout simplement.
Genre d'aller manger dans un étoilé?
Non, d'avoir un jour une étoile ou de pratiquer une cuisine.
Après, ça fait toujours rêver. Je vais pas te mentir et te dire que genre, ça me fait pas du tout rêver. Mais je trouve que j'ai quand même un peu déjà eu cette expérience avec Emily, ouais. De chasser et de, entre guillemets, c'était pas pour moi, tu vois, mais j'étais quand même vraiment très présent pendant genre, cette période-là quand on allait gagner l'étoile. Et. Je sais pas, ça me fait un peu moins rêver qu'avant, en tout cas.
C'est pas quelque chose forcément que tu recherches ou que. Pas forcément ici, mais dans le futur. Est-ce que tu as envie de recommencer?
Je trouve qu'on peut très bien réussir dans ce métier sans forcément chercher une étoile. Enfin, je pense que j'aimerais bien quand même. Un jour, quand j'ouvre mon restaurant, je pense que j'aimerais bien aller plus dans un truc un peu plus gastronomique quand même. Et tout de suite, t'es confronté à ça. Dès que c'est gastronomique, c'est tout de suite genre ouais. Est-ce que tu veux l'étoile ou pas, genre c'est difficile d'être en restaurant gastronomique et de pas vouloir avoir l'étoile. L'étoile c'est quand même très valorisant pour ce genre de restaurant, quoi. Donc je pense qu'un jour j'aimerais bien, mais pour l'instant je suis très bien comme ça.
Très bien. J'ai une autre tradition, c'est que je demande une recette à la fin.
Ah ouais, toi?
Ouais.
Attends, une recette comment,
genre... Une recette de Thomas Graham à la maison.
Oh, cool.
Ta recette d'omelette, peut-être.
Ok, bah, grave. Mais ça, genre, j'en fais souvent à la maison en plus.
Alors, comment tu fais?
Comment je fais une omelette?
Ouais.
Ok, cool. Une omelette, qu'est-ce que je vais faire? Il faut 3 œufs. Il faut une poêle interadhésive. Ou un truc qui colle pas trop, quoi. Genre, c'est pas forcément une poêle neuve, mais un truc comme ça. 3 œufs. Et après, tu ouvres le frigo et tu trouves quelque chose, quoi. Genre, tu peux mettre du fromage, tu peux mettre genre un demi-oignon si t'as des oignons, des herbes, un peu ce que tu veux. Nous ici, genre, moi j'aime bien genre, mettre un peu de parmesan, un truc comme ça, dans les omelettes. Mais genre, tu mets vraiment ce que tu veux, c'est une omelette. Enfin, fond du frigo, c'est voilà, on y va.
Mais tu mélanges tout avant?
Ça dépend qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Si tu veux mettre du fromage, par exemple, tu commences à faire très légèrement chauffer la poêle. Tu mets un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive dedans. Tu fais juste mousser le beurre un petit peu. Et après, tu mets les œufs mélangés dedans. Tu mélanges beaucoup avec une petite marise, comme ça. Et après, si tu veux mettre genre, des herbes, tu peux mettre des herbes aussi. Si tu veux mettre du fromage, genre, tu mélanges un peu tes œufs. Il faut que ça commence à cuire un petit peu, toi. Et après, tu les aplatis, tu les touches plus, tu baisses le feu. Tu laisses genre, cuire tout doucement, comme ça, pendant 30 secondes, il faut juste que ça soit juste genre un petit peu cuit, mais un peu baveuse, enfin pas trop cuit et tout. après tu le roules et c'est tout, et tu as un petit fer de sel et c'est plié, enfin c'est tout.
Parfait.
Et bon, si tu veux mettre genre, des petites herbes ou un truc dessus, tu peux, mais moi à la maison, je suis pas là avec de l'oxalis et des fleurs, toi. Genre,
tu t'assois même pas pour la manger, tu la manges debout,
debout.
Directement.
Ouais. Non, genre, souvent si je me fais une omelette, c'est le week-end et je me pose et je mange. Et je me pose et je mange, tranquille.
Merci Thomas.
Avec plaisir.
Vous venez d'écouter Thomas Graham, épisode 14 de la saison 5. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Mermoz, au 16 rue Jean Mermoz, à Paris 8e. Vous pouvez suivre leur chef et le restaurant sur leur compte Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.